France Culture.
À voix nue, Éric Lemasson, avec Israël Nizan,
gynécologue obstétricien, parce que préoccupé par la cause des femmes depuis 50 ans.
Épisode 5, on ne se reproduit jamais. Israël Nizan, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous raconter pourquoi et comment, un beau matin à Strasbourg, vous avez décidé de prendre votre bâton de pèlerin et frapper à la porte des collèges et des lycées pour y rencontrer des adolescents dans le but de leur parler sexualité et de répondre à votre manière, c'est-à-dire sans détour aucun aux questions que nos chères têtes blondes se posent. Mais avant d'aborder cette question de la sexualité des adolescents, je voudrais revenir sur, dans ces années plus récentes, sur une polémique. Vous en avez été l'un des artisans ou l'une des victimes, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, vous avez un talent particulier pour vous retrouver au centre de polémique, avouez-le. Je veux parler de l'histoire de la pilule de troisième et quatrième génération. Que s'est-il passé lorsqu'on vous a accusé de conflit d'intérêts et de défendre des pilules qui étaient dangereuses, vous, le professeur Nizan?
Enfin, elles sont dangereuses, elles sont utilisées dans tous les pays du monde. Quand la France est le seul pays à déclarer qu'elles sont dangereuses, c'est pas que tous les autres se trompent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le candidat à la présidence de la République avait promis la gratuité de l'IVG. Que peu de gens demandaient d'ailleurs. La gratuité, c'est-à-dire pas de ticket modérateur. On peut admettre cela, mais aucun ministre voulant appliquer le programme du candidat président ne peut engager une dépense de plusieurs millions d'euros aux dépens de la sécurité sociale sans dire les recettes qu'il met en face de cette dépense. Surtout qu'il s'agissait de 15 à 20 millions d'euros par an. Donc la gratuité de l'IVG, il fallait trouver des recettes. Et la recette qui a été trouvée par le ministre de l'époque a été de dire « on va jeter l'anathème sur les pilules de troisième génération, de telle sorte que ces pilules, on n'ait plus besoin de les rembourser, parce que cette dépense-là était à peu près équivalente à la dépense de la gratuité de l'IVG. »
Pardon, je vous interromps. Ça, c'est la façon dont vous présentez l'histoire. Je vais vous lire comment le journal Le Monde, daté du 10 janvier 2013, présente l'histoire, qui est tout à fait autre. C'est ça qui est intéressant. Je cite Le Monde. « Pourquoi les médecins ont-ils continué de prescrire à la moitié de leurs jeunes patientes des pilules de troisième et quatrième génération, en dépit des recommandations contraires de la Haute Autorité de Santé depuis 2007 ? Sans doute parce que les alertes sur la dangerosité de ces contraceptifs ont été couvertes par une autre musique omniprésente, le discours des gynécologues les plus médiatiques de France. » Et c'est notamment vous qui êtes visé, professeur Israël Nizan, ces experts à la télévision poursuivent Le Monde qui viennent dire qu'il faut prescrire ces pilules alors que des hautes autorités de santé disent qu'il ne faut pas les prescrire. Donc on n'y comprend plus rien et c'est certainement l'inverse de ce que vous venez d'expliquer auparavant.
Tout à fait, mais pourquoi en 2009 le gouvernement a-t-il décidé de les rembourser ces pilules de troisième et quatrième génération? Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il y a des femmes qui ne supportent pas les pilules de deuxième génération et pour qui, pour des raisons cutanées, pour des raisons hormonales, avaient besoin d'une autre pilule et par souci de trouver des contraceptions qui s'adaptent pour tout le monde, on a remboursé les pilules de troisième génération. J'ajoute que personnellement, je n'avais jamais jusque-là prescrit de pilules de troisième génération car je disais aux labos qui venaient me les présenter, ces nouvelles pilules, j'estime que la contraception doit être remboursée, ce n'est pas une thérapeutique de confort, et vos pilules de troisième génération, je ne les prescrirai pas tant qu'elles ne sont pas remboursées. En 2009, l'une d'entre elles est remboursée. Le laboratoire vient me voir et me dit « Vous devriez être content, on en rembourse une ». Ben, j'ai dit « Oui, maintenant, celle-là, je vais pouvoir la prescrire de temps en temps quand j'en ai besoin, parce que c'est enfin remboursé ». ils m'ont fait venir à une conférence de presse pour annoncer le remboursement d'une pilule de troisième génération. Et ça, ça a été pris comme argument pour montrer que j'étais un de ces leaders d'opinion qui était favorable aux troisième génération. Je n'y étais favorable que dans le cas où elles étaient remboursées par la Sécurité sociale.
Ce qui en ressortait dans la presse, c'était qu'en gros, vous étiez l'archétype du médecin pris dans un conflit d'intérêts, porte-parole des grands labos pharmaceutiques pour vendre des nouvelles pilules.
Sauf que les conflits d'intérêts, ils sont, on les voit, les laboratoires sont obligés de déclarer les stylos ou les petits déjeuners qu'ils donnent à un médecin, et je n'ai jamais accepté quoi que ce soit d'aucun laboratoire. Donc il n'y avait aucune preuve, c'était une assertion juste faite pour me désinguer.
Pour mieux comprendre, revenons quand même, il y a un cas d'un décès d'une jeune femme qui prend cette nouvelle pilule de troisième ou quatrième génération, qui est victime de thrombose, qui décède et qui va être ce cas qui est probablement rare, va en tout cas être montré en exemple ou bien monté en épingle, je ne sais pas, pour dénoncer la dangerosité de ces pilules. Alors que vous, si je comprends bien, vous dites qu'au contraire, statistiquement, il y a bien moins d'effets secondaires et de risques pour ces femmes avec ces nouvelles pilules. C'est bien ça ?
Le risque de thrombose existe même en l'absence de pilules. De tout temps, il y a eu des hommes et des femmes qui, ayant une anomalie de la coagulation, font des thromboses. Alors, est-ce que la pilule augmente ? La réponse est oui. Elle augmente fois 2. On part de chiffres qui sont de l'ordre de 1 pour 1 million. Et on est à 2 pour 1 million. Mais la grossesse, on est à 12 pour 1 million. Et le postpartum, on est encore plus haut. Donc, pour moi, effectivement, il y a un effet négatif. C'est pas un bonbon, la pilule. C'est un médicament qui doit se prescrire. Parfois, le médecin doit vérifier qu'il n'y a pas de problème de coagulation dans la famille. Et tout ça, les médecins le savent. Dire tout d'un coup, attention, les pilules de troisième génération font plus de mal que les autres, c'est effrayer la population. Et on a vu, dans les suites de cet effarouchement, une augmentation des IVG, surtout liée au fait que les femmes ont utilisé des contraceptions non hormonales, parce qu'on leur a dit de partout, sur toutes les radios et sur toutes les télés, que cette horreur de pilules hormonales, et ça a valu pour les deuxièmes générations et pour toute la contraception, les jeunes femmes se sont tournées vers des contraceptions non médicales.
Oui, c'est ça l'effet pervers de cette affaire, c'est que finalement, l'usage de la pilule a chuté.
Il a chuté drastiquement au profit, et c'est peut-être une bonne chose, des dispositifs intra-utérins, parce que celui-là, on l'oublie pas, alors que la pilule, on l'oublie. Je parle des jeunes, toujours. Mais j'ai trouvé qu'on me faisait un très mauvais procès de dire que j'étais un leader d'opinion payé par les laboratoires. Ça n'a jamais été le cas de ma vie. Et affirmer cela sans avoir aucune preuve et en sachant bien, dans le fond, que ce n'était pas le cas, c'était destiné à m'inhiber dans une conférence de presse que je m'apprêtais à donner le lendemain, avec le titre suivant, contraception en Berne, IVG gratuite, quel est le message ?
Ce que vous sous-entendez, c'est que vous vous retrouvez alors au centre d'un billard à plusieurs bandes, avec plusieurs acteurs, et vous parlons clairement, les autorités de santé publique, le gouvernement, le ministère de la Santé, ne veut pas, n'a pas les moyens de rembourser la pilule de troisième, quatrième génération, qui est plus cher, veut, comme il y a eu un engagement présidentiel, faire l'IVG gratuite pour toutes, et qu'on utilise cette affaire de cette jeune femme décédée pour vous discréditer et surtout discréditer les nouvelles pilules.
Il s'agissait de dire aux femmes, d'ailleurs on va retirer ces pilules du marché, ils ont demandé à la communauté européenne de retirer ces pilules du marché, mais les gens des autres pays ont rigolé, et d'ailleurs elles sont toujours aujourd'hui sur le marché, alors que si c'était des médicaments si dangereux, on les aurait retirés, donc ça montre bien que c'était pas un problème de danger pour la population, c'était juste un problème d'équilibre des comptes de la sécurité sociale. C'est pour ça que quand je vois une jeune femme qui, à 18 ans, en est à sa cinquième IVG, et qui me dit « De toute façon, l'IVG, c'est gratuit et la pilule, j'en suis de ma poche. » Je dis que si on avait voulu faire beaucoup d'IVG, on s'y serait pas pris autrement. Je dis qu'on marche sur la tête.
Et comme si cette polémique ne suffisait pas, vous en rajoutez, pardon, une couche en disant « Moi, je milite pour la gratuité de la pilule contraceptive pour les mineurs et de façon anonyme. » Et là, vous avez contre vous des associations familiales, des associations religieuses, la bien-pensance traditionnelle.
C'est surtout la confidentialité de la contraception avant 18 ans parce que il y avait une feuille de sécu qui arrivait aux parents. Donc les parents savaient que leur fille avait acheté des pilules à la pharmacie. Les adultes vivent de la confidentialité de leur sexualité. Pourquoi nos adolescents n'y auraient pas droit?
Et donc, parce qu'ils sont mineurs, docteur.
Elles sont mineures, mais sur le traitement du sida, on a accepté, parce qu'on a vu que si les parents devaient donner l'autorisation pour traiter un sida, les ados ne se feraient pas soigner. On a accepté pour le sida qu'il n'y ait pas besoin de l'autorisation parentale. Et d'ailleurs, pour l'IVG, ça fait depuis pas mal de temps, depuis 2002, qu'une jeune femme mineure peut venir nous demander une IVG sans que les parents le sachent. On va même jusqu'à faire une anesthésie générale sans que les parents le sachent. Donc il y a une exception, une espèce de bulle qui s'appelle le droit des adolescents d'avoir une sexualité sans que leurs parents le sachent. Et c'est très bien ainsi.
Mais encore une fois, je reviens finalement à la première question que je vous avais posée au tout début du premier entretien de ce premier épisode de À Voix Nue. Vous semblez aimer la bagarre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aviez besoin d'en rajouter une couche sur la gratuité et l'anonymat sur la pilule?
Qui était l'avocat de nos jeunes? Moi, les jeunes femmes, je les voyais venir pour des IVG. Et je peux vous dire que s'il y a une chose qui m'émeut, c'est qu'une femme de 15 ou 16 ans termine sa première histoire d'amour sur une table d'opération. Je pense que ça peut laisser des séquelles à vie. Je n'aurais pas voulu que ma fille vive ça. Et je voyais des centaines de jeunes femmes vivre ça. Et j'étais pas d'accord avec cela. Voilà.
Plus généralement, cette affaire montre aussi que, comme dans d'autres domaines, la parole du spécialiste, la blouse blanche que vous êtes, est un peu démonétisée de nos jours, puisque tel blogueur ou telle influenceuse a finalement bien davantage de followers que vous et davantage écouté, et va prescrire à la France entière de la jeunesse de ne pas prendre la pilule.
Les experts n'ont plus la cote, et je pense que ça, c'est quelque chose qui entrave le bon fonctionnement de la démocratie. Ça a lieu en santé, ça a lieu en politique, ça a lieu dans tous les domaines. Malheureusement.
Alors, la sexualité des adolescents, parlons-en. Je vais juste raconter en introduction qu'en tant que journaliste, un jour, j'ai assisté moi-même à l'une de vos interventions auprès des ados dans un collège d'un quartier populaire de Strasbourg, auprès de gamins pour lesquels parler sexe était une incongruité totale. Comment dire ? Vous avez peur de rien ? Aujourd'hui, on dirait « c'est chaud ». Autrefois, on aurait dit que c'était rock'n'roll, mais c'est incroyable. Racontez comment ça se passe et comment vous est venue cette idée d'aller rencontrer les petits jeunes des quartiers de Strasbourg pour leur parler sexe.
Ça m'est venu à Poissy parce que je voyais, chaque fois que je passais la visite, des gamines de 16 ans qui n'avaient même pas eu accès à l'IVG et qui accouchaient. Et je me suis dit que ces gamines venaient toutes du petit collège qui avait de l'autre côté de la rue, mais personne n'avait pris le temps de leur dire comment on fait pour entrer en sexualité. On leur a appris à traverser la rue sans se faire renverser en regardant à droite et à gauche, mais on ne leur a pas appris qu'elles peuvent dire non, qu'à chaque rapport, il faut savoir si ça donnera lieu à un enfant ou pas. Pas appris. Et donc, j'ai été voir le directeur de l'école, j'ai dit « je vous propose mes services ». Pour essayer d'arrêter ce cycle de la pauvreté, parce que ces ados me disaient « mais ma maman, elle m'a eu à 16 ans également ». Donc pour elle, c'était presque normal d'avoir cette interruption volontaire de l'adolescence, qu'est un accouchement à 16 ans. Ça a bien diminué les accouchements avant 18 ans, ça a bien diminué à cause du recours à l'IVG qui est désormais possible et qui est connu de tous et qu'on peut avoir confidentiellement. Mais moi, je me suis dit, éduquer nos ados, venir leur parler face et leur dire, voilà comment on fait, et voilà ce que c'est l'homosexualité, et voilà ce que c'est la jouissance sexuelle, et la virginité, on va en parler, et l'inceste, on va en parler. Je peux vous dire que les oreilles de cocker se dressent, et que c'est extrêmement important que nous suivions juste la loi de la France. La loi de la France de 2001 prévoit 4 heures par année d'âge depuis l'âge de 4 ans. C'est juste une loi qui décore les étagères du ministre de l'Éducation.
Oui, parce qu'elle n'est pas appliquée.
Pas appliquée nulle part. Nulle part. On n'a pas de prévention de l'inceste. Touche pas à mon corps. Mon corps est à moi. Ça doit se faire au CP. Il y a des pays qui ont 3 fois moins d'inceste que nous. Donc, quand on n'éduque pas, c'est les fragiles qui payent. Les fragiles, c'est les enfants et c'est les femmes.
Quand vous arrivez dans un collège, bon, au tout début, en tout cas, le principal du collège, le proviseur du lycée, quelle tête il fait quand vous lui dites « je vais venir parler auprès de tes élèves de choses très intimes ?»
Et ils me disent « vous savez, on a la formation pompier, on a la formation ceci, la formation cela, et ils ne sont pas obligés de le faire. » Et quand j'ai demandé au ministre « envoyer un courrier à tous les directeurs d'établissement pour leur demander quelles sont les ressources humaines qu'ils ont pour appliquer la loi de 2001 », « ah non, ça je peux pas faire, vous comprenez, les associations parentales vont me tirer dessus. » Ben alors, abrogez la loi. Si on peut pas l'appliquer, abrogeons-la. Pareil pour la loi sur la protection des mineurs. On a une loi. Essayez voir de distribuer dans la rue des images porno à des enfants. Ça se termine en prison. Mais si vous êtes un milliardaire du net, vous avez le droit de faire business as usual. Et ça, ça m'insurge.
Sur la pornographie comme moyen d'éducation sexuelle, on va y revenir. Mais revenons tout d'abord à ce que vous aviez appelé à l'époque info-ado. Ces dialogues et ces questions-réponses dans les collèges et lycées autour de la sexualité. Concrètement, racontez comment ça se passe. Vous arrivez et je crois que vous avez demandé aux élèves de poser dans une vasque des petits mots par écrit, anonymes, avec des questions. Et là, il y a tout.
Je réponds à tout et d'ailleurs, je demande aux enseignants de ne pas sélectionner les questions parce que souvent, ils ont envie de présenter leur établissement d'une manière propre et ça les gêne qu'il y ait des questions grivoises, voire carrément injurieuses. Et moi, j'ai besoin de répondre aux questions parce que d'abord, dans tel collège et dans tel autre, il n'y a pas les mêmes questions qui se posent dans la cour de récréation quant à la sécurité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu les mêmes films porno. Et donc, les questions me servent à aborder des sujets que je n'aurais pas pu aborder spontanément. Par exemple, la zoophilie. S'il n'y a pas de questions sur la zoophilie parce qu'il n'y en a aucun qui a vu un film de zoophilie, ben, il n'y a pas de questions. En revanche, je suis arrivé dans des collèges où il n'y avait que des questions sur la zoophilie, parce qu'il s'était passé le même film à tous. Donc les questions, ça me permet de repérer quelles questions se posent dans un collège, et ça me permet aussi de justifier mon intervention sur des sujets qui pourraient être considérés par les parents d'élèves comme marginaux, voire incitation à la débauche. Donc je suis de ceux qui estiment qu'on ne parle pas de sexualité à des enfants. À des enfants, on parle de protection de soi, de protection de l'autre, de respect de l'autre. Mais vient le moment de la génitalité, au moment de la puberté, où les parents ont besoin d'aide. Parce que l'ado se ferme. Et cette aide-là, elle ne peut venir que d'un tiers formé correctement.
Mais dans une époque où l'obscurantisme religieux se développe, c'est un euphémisme, et où, pour montrer des caricatures religieuses, on peut terminer dans un établissement scolaire décapité. Dans certains établissements, parler sexualité, c'est probablement perçu comme une provocation.
Alors, tout dépend quelle est la règle du jeu. Si ça fait partie, comme l'éducation physique, du programme scolaire, parce que le directeur d'établissement l'a décidé, eh bien, c'est comme ça. Donc, il y a ce que j'appelle le tronc commun des connaissances, et la sexualité, la vie affective et la sexualité en font partie.
Sauf que les équipes enseignantes se heurtent à des oppositions, parfois. C'est préfèrent finalement raser les murs.
C'est pas aux équipes enseignantes, comme ça ne peut pas être les parents, qui ont une relation verticale à l'enfant et qui interdisent, et s'ils n'ont pas interdit, c'est dramatique. Ça ne peut pas non plus être les enseignants, parce que l'enseignant, il note, et c'est un pro-parent. Il faut que ce soit du tiers, qui a une relation horizontale et de complicité avec les élèves.
Alors, au cours de ces rencontres, et aussi publiquement, vous dénoncez le fait que c'est l'accès sans limite à la pornographie dès le plus jeune âge, qui initie nos enfants à la sexualité, une sexualité caricaturale, irrespectueuse envers les femmes. On est vraiment dans une époque où vous dénoncez le fait que non seulement ça existe, mais que personne ne lève le petit doigt pour changer quoi que ce soit.
Malheureusement, Et je peux vous dire que les milliardaires du net, ils mettent leurs enfants dans des écoles à l'abri de tout ça. Et le patron de TikTok vient de déclarer que ses enfants n'ont pas TikTok sur leur appareil de téléphone. Donc ces gens-là savent bien le mal que ça fait. Mais nous, comment peut-on se protéger si l'État ne nous protège pas ? Je demande l'application de la loi sur la protection des mineurs. Un numéro de carte bleue avant la production de la première image, même si on ne fait pas payer derrière, mais avec le numéro de carte bleue, on peut voir l'âge de la personne. Aujourd'hui, que font les sites pornographiques ? Ils demandent, vous avez 18 ans ? Oui, non, oui, on tourne la page et on va... De qui se moque-t-on ? Donc, si la loi sur la protection des mineurs peut être bafouée à ce point-là, là aussi, abrogeons-la. Et donc, il me semble bien que le business as usual... Ces enfants ne dépensent pas d'argent sur des films porno, mais ils font des amorces gratuites. Et si 0,01% des gens qui ont vu l'amorce cliquent sur le film et l'achètent, c'est des millions et des millions de profits. Je veux lutter contre les amorces gratuites et contre le fait que nos enfants soient en stabulation libre devant ces images dès l'âge de 9-10 ans, avec des jeunes qui sont addicts, parce que l'addiction résulte de... traumatisme d'être tombé par hasard sur ces images, de l'excitation sexuelle qui va avec, et la rencontre du traumatisme, de l'excitation sexuelle et de l'interdit donne l'addiction. J'estime que faire ça et en même temps ne pas éduquer nos enfants, c'est une barbarie.
Ça paraît être le bon sens. Pour quelle raison ce n'est pas mis en place, à votre avis ? Par faiblesse, par soumission à la loi des GAFAM pour quelle raison ?
Soumission à la puissance des lobbies. Les lobbies sont jusqu'à présent encore bien plus puissants que la voix de 100% des parents de France qui sont derrière moi. Il n'y a aucun parent qui a envie que son enfant découvre la sexualité au travers d'images comme celles-là qui sont faites par des adultes pour des adultes. Je n'ai rien contre la pornographie. Que les adultes s'en servent pour eux, pour leur vie sexuelle, ne me dérange pas. En revanche, je suis dérangé par le fait que nos enfants n'ont pas pu constituer leur fantasmagorie psychosexuelle tout seuls et qu'on leur a donné un prêt-à-porter qui est l'almanach de la jouissance masculine et de l'humiliation féminine.
À Strasbourg, notamment lorsque vous étiez élu municipal, vous avez proposé ce que vous appeliez à l'époque une sorte de festival de Cannes de la bioéthique, c'est-à-dire un grand rendez-vous annuel au cours duquel vous feriez venir de façon pluridisciplinaire des experts pour débattre, exprimer, etc. Ça s'est appelé le Forum européen de bioéthique qui a lieu chaque année. Comment vous est venue cette idée ? Sachant que la population a répondu présente et des centaines de Strasbourgeois et d'Alsaciens viennent chaque année écouter ces débats au cœur de la ville.
Je participais à l'époque à beaucoup de rencontres de bioéthique entre savants et entre experts. Et on se mettait autour d'une table et on avait beaucoup d'avis extrêmement intéressants. Mais je me suis rapidement aperçu que le grand public estimait que la bioéthique était une affaire de médecins, une affaire scientifique, à laquelle il ne pouvait pas participer. Depuis, les choses ont bien changé. On voit sur la fin de vie, c'est une discussion bioéthique. Tout le monde doit être capable de mettre les arguments les uns derrière les autres pour dire pourquoi il est contre et pourquoi il est pour. Et l'avis de tout le monde a de la valeur. Je me suis donc dit qu'il n'y avait aucune ville en Europe qui proposait au grand public de s'approcher des enjeux de la bioéthique, de se les approprier, et même, à la limite, de lever la main et de donner son avis. Et on a essayé à Strasbourg, et la surprise, ma surprise, a été que les salles étaient combles, et que pour peu qu'on invite des gens qui savaient ne pas jargonner, et je les ai empêchés de montrer des diapos médicales, je les reprenais quand il y avait un terme qui était médical, quand les gens ont compris la qualité de ce qu'on leur offrait comme explication et que sur chaque séquence de 2 heures, il y avait 1 heure réservée aux experts et 1 heure réservée au grand public, les gens se sont emparés et ça continue encore aujourd'hui. On vient de passer la 14e édition, c'était sur l'intelligence artificielle, quelles sont les conséquences bioéthiques, mais l'année d'avant, c'était les problèmes bioéthiques que pose l'enfance. Donc il y a à l'infini des sujets qui peuvent être traités et approchés par le grand public. Et aujourd'hui, c'est devenu une marque. Les conférenciers de bioéthique qui sont fâchés quand on ne les invite pas au Forum européen de bioéthique. Donc avant, j'étais obligé d'expliquer ce que c'est. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'expliquer. C'est le seul endroit d'Europe. Et c'est pour ça qu'on a été approché par la Commission européenne. Ils voulaient que j'aille faire la même chose à La Haye, Amsterdam, etc. Je peux pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à Strasbourg, la culture bioéthique des gens qui s'intéressent, elle est là. Bref, la bioéthique, c'est pas une tour d'ivoire. On peut s'intéresser à la bioéthique si on est monsieur et madame tout le monde.
Israël Nizan, pour terminer cette série d'entretiens, je vous propose de revenir à l'essence même de votre métier, c'est-à-dire la naissance, la mise au monde des bébés, la reproduction humaine. Cette décision un peu folle de deux êtres qui s'aiment de prolonger leur amour par un désir d'enfant. Mais, dites-vous, avec une sorte d'illusion, qui sera que l'enfant qui vient ne sera pas forcément un être qui leur ressemble. Expliquez-nous ce paradoxe intéressant, c'est-à-dire quand on veut un enfant, c'est pas le prolongement de soi-même.
Je pense qu'on ne se reproduit jamais. Ce terme de reproduction est faux et il trompe. Jamais un enfant ne va rester sur l'étagère dans la position où on l'y a posé. Il va changer de position. Parfois au grand désarroi de ses parents et revenir avec une crête violette iroquois. Et ses parents n'auront pas d'autre choix que de valider sa vie parce que c'est désormais sa vie. Ce serait bien qu'on dise aux parents, on ne se reproduit pas. Et quand je vois des parents infertiles qui viennent au service de reproduction humaine, ben ils sont abusés par ce mot-là. Disons-le, aucun enfant n'est exactement comme ses parents auraient voulu qu'il soit. Et c'est bien ainsi, c'est très sain qu'un enfant sache, plus ou moins tôt, prendre son envol, prendre le volant en main et s'éloigner de ses parents. Pour moi, le mot éduquer, ça peut se traduire de deux manières. Ça peut se traduire éducare, je donne à manger, mais ça peut se traduire par éduquere, je conduis dehors. Les parents devraient être fiers d'avoir pu mettre des canards sur la mare, qu'ils soient des gens heureux et capables de vivre et de flotter tout seuls.
C'est un beau début de conclusion, professeur Israël Nizan. J'ai une question toute simple à vous poser au cours de vos 45 ou 50 années de carrière. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'enfants que vous avez mis au monde ?
J'ai un peu essayé de calculer, mais c'est à peu près 6 000.
6 000. Il y a des moments particuliers, des souvenirs précis, d'ailleurs pas forcément toujours positifs, dont vous vous souvenez de naissances particulières ou de moments particuliers ?
Oui, les naissances qui m'ont fait le plus de peine, c'est les accouchements sous X. Voilà un enfant qui vient au monde, qui n'a pas demandé à venir au monde, et on sait que sa vie est, dès le départ, très gravement obérée. Alors, il m'est souvent arrivé d'aller en pouponnière, d'en prendre un dans les bras, de passer la visite avec lui, habillé en Père Noël, mais je me dis, voilà... quelle va être sa vie ? Et toute cette inégalité de chance sur laquelle on ne pourra jamais revenir, cette inégalité de départ, c'est quelque chose qui, de temps en temps, à 3 heures du matin, au fin fond d'une salle d'accouchement, m'a presque tiré les larmes.
Merci infiniment, Israël Nizan, d'avoir participé à cette série d'entretiens pour À Voix Nue. Au revoir.
Au revoir. Merci.
C'était À Voix Nue avec Israël Nizan. Réalisation Yael Mandelbaum, prise de son Virginie Lorda, chargée de programme Daphné Abgral. Une série proposée par Éric Lemasson, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.